Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique est à Abu Dhabi où se tenait ce week-end la 14e édition de la World Policy Conference, fondée et présidée par Thierry de Montbrial, qui est également président et fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Et avec nous également Renaud Girard, grand reporter et éditorialiste de politique étrangère au Figaro, dont les chroniques sont à lire tous les mardis dans le quotidien français. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes donc à Abu Dhabi, en même temps qu'a démarré, non loin d'ici, à Dubaï, l'exposition universelle décalée pour cause de pandémie. Dubaï 2020, un grand rendez-vous architectural mondial, un rassemblement majeur pour la région. Cette année marque également le 50e anniversaire de l'indépendance des Émirats arabes unis, État fédéral situé entre le golfe arabo-persique et la mer d'Oman face au détroit d'Ormuz et à l'Iran. Voilà pour notre petit éclairage géographique. Nous allons commencer par parler de la région. Il y a un an étaient signés des accords majeurs, les accords d'Abraham entre Israël d'un côté, de l'autre les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Thierry Montbrial, est-ce qu'un vent nouveau souffle au Proche-Orient ?
Oui, j'hésite sur l'expression vent nouveau parce que les vents nouveaux, c'est aussi lié aux changements très importants qui prennent place dans le monde, que ce soit la pandémie, l'accélération de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, etc., etc. Donc les vents sont toujours nouveaux. Ce qui est vrai, c'est que sur ces accords d'Abraham, sur lesquels beaucoup de scepticisme avait été montré à l'époque, moi, je fais volontiers mien ce que disait pendant cette conférence Anwar Gargash, le Kissinger de la région, j'aime l'appeler le Kissinger des Émirats arabes unis, c'est qu'il faut regarder le monde avec un certain pragmatisme et que si on veut éviter la poursuite des échecs multiples qu'ont rencontré les pays du Moyen-Orient en s'engageant trop dans l'idéologie, il faut regarder les choses avec un peu de pragmatisme. Et donc cette réconciliation ou disons normalisation, je ne sais pas quel mot employer exactement, des relations avec Israël, elle va dans le bon sens. Maintenant, il faut aussi qu'Israël tienne compte de cela pour mettre aussi de l'eau dans son vin, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais en ce sens-là, oui, il y a un vent nouveau et le fait est que un an après, ce mouvement qui a été ainsi enclenché a des chances, je crois, de se consolider.
Renaud Girard.
Oui, c'est un très grand progrès par rapport à la conférence de Khartoum qui était en fin 67, c'était les trois noms. Non à Israël, non au dialogue avec Israël, non à tout contact avec l'État hébreu. Aujourd'hui, à peu près tous les pays ont des contacts avec Israël. Il faut se féliciter de ces relations diplomatiques qui ont été ouvertes ensuite avec le Maroc, qui était un pays très important. Il y avait depuis 2000 ans une communauté juive très importante. Et les Juifs maintenant reviennent, voyagent au Maroc. Et je pense qu'effectivement, il y a deux pistes qui sont ouvertes. Et la première piste, qui est la piste de la coopération d'Israël, qui est un État qui a très bien réussi dans l'industrie numérique, qui est un exemple aussi de démocratie pour la région et de réussite économique, de réussite dans l'innovation, de réussite aussi même aussi dans la coexistence entre différents peuples, parce que vous avez même un frère musulman qui est entré au Parlement. Et donc vous avez cela, et il faut l'encourager, ce dialogue d'Israël avec ses voisins. Et puis vous avez une deuxième piste qui, elle, n'avance pas, hélas. Il ne faut pas que l'une empêche l'autre d'avancer, qui est le dialogue israélo-palestinien pour l'établissement d'un État palestinien. Je pense que c'est la solution la meilleure, et c'est en tout cas la solution la meilleure pour l'État hébreu. Beaucoup d'Israéliens n'en sont pas persuadés, je pense qu'ils ont tort, que la principale bombe qui menace Israël, c'est pas la prétendue bombe atomique iranienne, mais c'est la bombe démographique chez eux. S'ils veulent garder un État juif, eh bien, il faut qu'ils concèdent une partie de la Palestine mandataire pour la constitution de l'État palestinien. On ne leur demande pas un très grand effort puisqu'il s'agit uniquement de donner 22% du territoire de la Palestine mandataire.
Alors Thierry de Montbrial, vous évoquez la nécessité de consolidation hein, à propos de ces accords d'Abraham. Est-ce que la compétition naissante entre les deux monarchies du Golfe, que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, motivée, on l'a évoqué au cours de ces journées, par la nécessité de diversifier leurs économies au-delà du pétrole, est-ce que cela risque de se transformer, d'après vous, en rivalité avec évidemment des risques pour la géopolitique du Moyen-Orient?
Vous savez, je crois qu'il faut regarder ces choses-là avec un certain recul, parce que nous aurions eu cette discussion il y a 6 mois, nous aurions au contraire parlé des l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, la main dans la main contre le Qatar, enfin peut-être pas il y a 6 mois, mais il y a 8 mois, et il y a, on parlait tout à l'heure des vents qui soufflent, des vagues, etc. Enfin, tout cela doit être relativisé, parce que vous avez au Moyen-Orient, particulièrement dans la région du Golfe, véritablement sont des querelles de famille. On est très amis un jour, on s'engueule le lendemain, etc., etc. Je crois que ce qui est important, c'est de voir si les différents pays de cette région partagent le sentiment qu'ils ont vraiment intérêt à se montrer plus unis que désunis vis-à-vis des défis extérieurs. Et je pensais pendant la conférence, à certains moments des présentations, je faisais un peu le parallèle avec l'Union européenne elle-même. C'est-à-dire que nous sommes entrés depuis la chute de l'Union soviétique, tout le jeu a été rouvert. Nous sommes rentrés dans un monde qui, avec l'ascension de la Chine, rappelle un peu celui de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, où tout peut déraper dans des catastrophes ou au contraire se recombiner d'une autre manière. Et donc toutes les régions intermédiaires se posent cette question. Bon, les petites querelles de voisinage, etc., ça peut être extrêmement dangereux. Alors bien sûr, on va continuer à se chamailler et les gens de la région vont continuer à se chamailler. Vous savez, il faut jamais oublier que ce sont les mêmes familles souvent qui sont à cheval entre les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite et même l'Iran. Où ils avaient beaucoup de mariages mixtes, etc. Donc je pense que la vraie question, c'est un peu comme au niveau européen, c'est pas qu'on se chamaille, on continuera de se chamailler, d'avoir des rivalités entre nous, etc., mais c'est la prise de conscience qu'il y a tout de même un intérêt supérieur à être davantage unis que désunis face aux grands défis.
Ça, vous l'avez senti, cette prise de conscience. Et on peut rappeler aussi que, en termes de chiffres, il y a plus de membres de l'Union européenne qu'il n'y a de membres de la péninsule arabique et du Conseil du Golfe.
Oui, et si vous voulez, chaque État peut apporter sa pierre à la paix. On a vu que Oman avait beaucoup contribué aux discussions entre l'Amérique et l'Iran. Les Émirats Arabes Unis, et moi personnellement, en tant que citoyen français, je me félicite de l'alliance de la France avec les Émirats Arabes Unis, parce que les Émirats Arabes Unis militent pour qu'on fasse la différence entre la politique et la religion, et que la politique n'interfère pas dans les questions religieuses et que la religion ne vient pas interférer dans les questions politiques. Je pense que les Émiratis ont raison. Ils donnent un exemple dans leur pays de tolérance, d'ouverture d'églises, de temples bouddhiques, de tolérance religieuse. Et je pense que c'est un exemple qui doit être suivi. Mais d'autres pays peuvent apporter aussi leur pierre. Moi, je pense que la France a raison de garder de très bonnes relations avec le Qatar, parce que le Qatar, lui, il a l'ambition de devenir, c'est un petit pays, mais devenir un hub de diplomatie, une sorte de grand centre de diplomatie. Je pense qu'il a raison. C'est pas de sa faute si les Américains ont tout bâclé avec l'Afghanistan. C'est pas la faute du Qatar si les Américains ont négligé d'inviter, ce qui était d'ailleurs scandaleux, l'armée afghane et le gouvernement afghan aux conversations avec les talibans de Doha. Doha a donné un cadre, c'est toujours utile. Je pense que si le jour venu, si Israël accepte, elle devrait d'ailleurs accepter, je pense que c'est pas son intérêt de refuser un dialogue avec le Hamas, eh bien, je pense que le Qatar a raison d'abriter des chefs politiques du Hamas. Moi, ma tasse de thé personnelle, c'est pas du tout les frères musulmans, mais il faut prendre les choses, les réalités telles qu'elles sont, comme le disait le général de Gaulle. Eh bien, le Hamas a une importance considérable en Palestine, enfin dans les territoires à Gaza et dans les territoires occupés. Donc, il faut faire de la politique avec des réalités. Et je pense que le Qatar veut jouer ce rôle diplomatique. Il a joué un rôle assez important en mai 2008 au Liban, les accords de Doha sur le Liban, qui ont eu le mérite d'exister. Ils sont pas parfaits, mais qui ont eu le mérite d'exister, d'avoir en tout cas évité toute guerre à cette époque au Liban. Et donc, on ne peut que se féliciter de la recomposition de ce conseil de gouvernement du Golfe, ainsi que les inciter, je félicite le Qatar également, de parler avec les Iraniens, parce que bien sûr qu'il faut parler avec les Iraniens, et bien sûr que les Américains ont surréagi lorsqu'ils ont perdu l'Iran à la fin des années 1970, et même surréagi à l'épisode certes désagréable des otages de l'ambassade américaine, mais où personne n'a été tué quand même, il faut le rappeler. Et je pense que les Américains devraient tout faire pour rétablir un dialogue avec cette grande puissance qui est la Perse. Il est anormal que l'Amérique n'ait pas un dialogue direct aujourd'hui, sauf, on l'a dit, en passant par Oman, avec l'Iran.
Oui, Thierry Mauburial.
Juste un mot, c'est que le problème ici, c'est Israël qui ne le veut pas. Les États-Unis, je pense, pourraient arriver assez vite à la conclusion que vient d'énoncer Renaud Girard. Encore faudrait-il en convaincre Israël.
Il faudrait que Israël cesse aussi, ou que les États-Unis cessent de faire leur politique étrangère par Israël. La politique étrangère américaine devrait se faire à Washington et non à Jérusalem ou à Tel Aviv.
Alors, Renaud Girard évoquait la surréaction des Américains. Je rebondis là-dessus avec vous, Thierry Mauburial. Est-ce que, d'après vous, les États-Unis ont raté leur moment unipolaire ?
Moi, j'ai toujours pensé que les années 90 ont été ratées. Mais elles ont été ratées pour une raison très simple, c'est que les États-Unis ont poussé de tout leur feu à l'extension de l'OTAN vers l'Est. Alors, il faut bien voir que pour les Américains, l'Union européenne, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les institutions euro-atlantiques. D'ailleurs, cette expression est constamment employée par les États-Unis. C'est pour eux, il y a l'Union européenne, l'ancienne communauté européenne, qui s'occupe d'économie et encore à la condition que ça ne marche pas trop sur les pieds des intérêts américains. Et puis, pour les questions sérieuses, c'est-à-dire les questions de sécurité, il y a l'OTAN. Et quand on parle de burden sharing, de partage du fardeau, il faut entendre acheter américain. Ça n'est pas développer les industries d'armement européennes, etc. Il faut bien comprendre tout ça, qui était la logique de la guerre froide, et cela a perduré après. Et pour ce qui me concerne, je n'ai jamais eu le moindre doute que le nœud du problème se trouvait en Ukraine. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre cela. Et je pense que tout ce qui est arrivé par la suite s'explique assez aisément. Alors, ça ne veut pas dire que les Russes n'ont pas, eux, surréagi. Mais il faut, là aussi, il faut être pragmatique et comprendre les autres. Ça ne veut pas forcément dire les approuver. D'ailleurs, nous ne sommes pas Russes. Et la question de savoir si c'est pas nous qui allons définir les intérêts des Russes à leur place. Il faut comprendre comment ils raisonnent. Alors oui, on a raté cela, et je pense que la France a raté aussi une occasion de se montrer un peu plus gaullienne à l'époque. Et maintenant, c'est extrêmement difficile à rattraper pour toutes sortes de raisons, mais disons que les plis ont été pris, et nous sommes dans un moment où Poutine, puisque c'est lui qui est au pouvoir, ne croit absolument plus en nous. Donc la confiance est totalement rompue, et c'est fort dommage. Il y a un petit codicille, quand on parle souvent, mais il faut parler avec les Russes, etc., je voudrais simplement rappeler que la diplomatie, ça n'est pas parler. La diplomatie, c'est négocier. C'est-à-dire que parler, bien sûr qu'il faut parler, et il faut se comprendre, etc. Mais il y a un certain moment où on dit, ben moi je te donne ça, toi tu me donnes ça en échange, voilà. Moi je pense, par exemple, que si les Russes, aujourd'hui, prennent un certain plaisir à aller nous embêter au Mali, c'est aussi parce qu'il y a ici une façon de rappeler aux Français et aux Européens plus généralement qu'ils ont aussi les pouvoirs. Le pouvoir, il est de nous embêter, si vous voulez.
Alors au Mali et pas seulement, Thierry Monbrial.
Non, pas seulement le Mali. Je prends le Mali comme exemple parce que il est tout récent, si vous voulez. Bien entendu. Alors, je pense que l'intérêt, sans trop allonger, je pense que la France et l'Europe doivent d'abord travailler pour essayer de préciser ce qu'ils entendent eux-mêmes, ce que nous entendons nous-mêmes par l'intérêt européen. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir très sérieusement quels sont les intérêts que nous reconnaissons sérieusement comme étant communs. Et je crois que les intérêts communs les plus évidents, comme toujours en politique étrangère, c'est ce qui se passe sur nos flancs, c'est-à-dire notre voisinage immédiat. Alors qu'est-ce que c'est le voisinage de l'Europe? Qu'on le veuille ou non, c'est fixé par la géographie. C'est l'Afrique du Nord et l'Afrique, en tout cas jusqu'au Sahel, c'est le Moyen-Orient, le Golfe, et c'est l'Europe de l'Est. Alors c'est là que nous devons concentrer nos efforts concrets les plus grands, ce qui ne veut pas dire naturellement que nous ne nous intéressons pas par ailleurs aussi à tout ce qui se passe dans le vaste monde, et en particulier dans le cadre de la querelle sino-américaine.
Dont on parlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission, Renaud Girard.
Oui, ben, je crois effectivement que nous avons un petit peu manqué, nous Européens, nos relations avec la Russie, et que nous commettons en fait une faute stratégique très grave à pousser les Russes dans les bras des Chinois. C'est une faute stratégique considérable dont il faudrait prendre la mesure.
Et les Iraniens, mon cher Renaud, sans vouloir l'interrompre, mais comme on est tellement d'accord.
Les Iraniens, voilà, dans les bras des Chinois. Et il faut évidemment faire un dialogue avec les Iraniens. Et sur la Russie, nous, Français, nous savons très bien, puisque nous avons fait le siège, nous suivions les Anglais pendant la guerre de Crimée, qui s'est passée entre 1850 et 1860. Et donc nous avons très bien à quel point les Russes tenaient à Sébastopol, parce qu'ils l'ont défendu. Ils l'ont défendu aussi héroïquement contre les Allemands, quand Hitler a voulu prendre Sébastopol. Et donc, il fallait comprendre qu'après que nous eûmes interrompu les négociations qu'on avait fait entre Ukrainiens et pro-russes en Ukraine de Kiev, vous vous souvenez le voyage de Fabius, de Steinmeier et de Sikorsky en Ukraine en février 2014, et que nous avons même obtenu un accord intra-ukrainien, mais que nous avons laissé ensuite partir, filer, alors que nous avions mis notre signature sur cet accord. Ben nous, il faut comprendre que pour Vladimir Poutine, qui est un officier russe, on ne pouvait pas laisser filer le port de Sébastopol à l'OTAN. C'était quand même assez clair à comprendre. Alors maintenant, moi, je pense que la Russie ne fait pas la politique de ses intérêts en étant intervenue à partir de l'été 2014 au Donbass. Je pense qu'elle aurait pu, parce qu'en Crimée, aucun sang n'avait été versé. Là, il y a eu du sang qui a été versé. Donc, il y a maintenant la Russie, en fait, par son action militaire de l'été 2014, pas de la Crimée, dans le Donbass, en fait, a soudé la nation ukrainienne, qui était au départ pas vraiment une nation, qui était une sorte de région frontière de l'Empire russe, en fait, depuis le XVIIe siècle, a soudé le sentiment ukrainien contre lui. Mais nous, Français, nous avons des intérêts à très long terme avec la Russie. Je pense que ça a été une grave erreur de la part du président Hollande de ne pas aller à l'anniversaire de la victoire russe sur le régime nazi, où Angela Merkel s'était pourtant elle-même rendue, parce que quand même, il faut savoir que 85% des divisions hitlériennes ont été vaincues par l'armée russe, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, je pense aussi que d'avoir rompu cet accord de vente des bateaux Mistral a été une erreur. D'ailleurs, nous avons été punis par le bon Dieu, puisque les Australiens nous ont fait le même coup avec nos sous-marins, et qu'ensuite Autant nous pouvons rappeler aux Russes qu'ils doivent quitter le Donbass, c'est tout à fait normal, et respecter les accords d'Helsinki, et respecter même les mémorandums qu'ils ont signés, comme le mémorandum de Budapest de décembre 94. Mais avoir une politique de sanctions commerciales à l'égard de la Russie qui est un pays qui a résisté pendant plus de 1000 jours au siège de Leningrad par l'armée allemande, est juste puéril et ridicule, et je pense que nous devrions renoncer à ces sanctions qui nous pénalisent, nous, Français, qui arrangent peut-être les Américains, mais c'est le problème des Américains, mais qui ne nous arrangent pas, nous. Et donc, je pense qu'il faut renoncer à ces sanctions commerciales à l'égard de la Russie.
On vous retrouve, Renaud Gérard, avec Thierry de Montbrial, après le journal. À tout de suite.
Priorité santé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis Abu Dhabi, où se tenait ce week-end la 14e édition de la World Policy Conference, fondée et présidée par Thierry de Montbrial, qui est également président et fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Avec nous également Renaud Girard, grand reporter et éditorialiste de politique étrangère au Figaro, dans les chroniques que sont à lire tous les mardis dans le quotidien français. Pendant tout le temps de la World Policy Conference, Thierry de Montbrial, on a entendu combien le monde était devenu compliqué, difficile à décrypter, plus que jamais interconnecté. Le savoir collectif, la nécessité de travailler ensemble ont été largement soulignés face à une mondialisation en pleine mutation, de plus en plus divisée, de plus en plus orientée par la nature de la relation États-Unis-Chine. La pandémie a mis en avant l'importance de la coopération internationale, la plus grande dépendance des uns par rapport aux autres. L'égoïsme notamment des pays européens a été souligné dans les réponses apportées pour lutter contre la pandémie. Il a été souligné un manque de coopération mondiale. Comment réagissez-vous quand Paul Kagame, président du Rwanda, invité de la World Policy Conference, déclare qu'il y a eu des insuffisances dans la gouvernance, que l'Afrique est en dernière ligne pour recevoir des vaccins, que les pays pauvres devraient voir leurs intérêts pris en compte par les autres? Il a parlé de double standard et d'hypocrisie, évoquant les restrictions de voyage pour les personnes vaccinées, mais pas encore avec le bon vaccin.
Alors, sur ce point, je dirais d'abord que l'hypocrisie, c'est la loi des relations internationales. Il faut être naïf pour s'étonner, ou faussement naïf, parce que le président Kagame est tout sauf naïf, pour s'étonner de l'hypocrisie. Alors maintenant, sur la réalité de la pandémie, c'est que personne, aucun État, et a fortiori aucun ensemble d'États ne s'était préparé à des pandémies de ce genre. À tort d'ailleurs, mais c'est un fait. Par exemple, il faut rappeler qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de véritable compétence en matière de santé. Par conséquent, cette crise a pris tout le monde au dépourvu. Et que les États aient commencé par s'intéresser à leurs propres citoyens, c'est normal, c'est inévitable. C'est dommage par rapport à un point de vue transcendantal de la condition humaine, mais c'est évident. Et d'ailleurs, les premiers, c'est pas l'Union européenne, c'est les Américains, c'est America First. Et quelqu'un a rappelé aussi les disputes qu'il y avait sur le tarmac en Chine, où les Américains s'étripaient avec les Européens pour piquer les masques aux autres. Et c'est ça la réalité. Donc le fait que chacun ait essayé de commencer à s'occuper de ses propres citoyens, c'est hélas normal. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve que l'Union européenne ne mérite pas non plus toutes les attaques dont on l'a accablé, parce que finalement, près des débuts en effet poussif et délicat, je trouve qu'on s'est rattrapé relativement bien. Alors maintenant, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut se préparer pour les prochaines crises et les prochaines pandémies, parce qu'il là aussi, ça a très bien été dit lors de cette édition de la World Policy Conference, il y aura d'autres pandémies. Parce que plus il y a interdépendance, plus il y a mouvement de personnes, plus il y a, et d'animaux d'ailleurs, etc., plus il y a des risques de ce genre. Alors, au lieu de dire un petit peu des choses faciles, si vous voulez, sur ce qui s'est passé, je crois qu'il faut que l'on travaille sérieusement à renforcer au niveau européen, par exemple, la coopération. Il faut créer des véritables compétences sanitaires au niveau européen, et au niveau mondial, il faut transformer l'Organisation mondiale de la santé en un instrument efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors que cette Organisation mondiale de la santé est quand même présidée par un Africain. Donc on aurait aimé peut-être entendre Monsieur Kagame, qui parlait d'ailleurs là un peu comme ancien président de l'Union africaine. Il parlait pas comme président actuel du Rwanda. Il défendait l'Afrique en général, si vous voulez. Et puis on peut aussi faire cette remarque que ces attaques. Alors, est-ce que l'Union européenne n'est pas assez généreuse? Elle est très généreuse. Elle est certainement plus généreuse à l'égard de l'Afrique que l'Amérique et que la Chine. C'est une vraie générosité dans le don. Mais là, on aurait pu peut-être demander aux Africains et à M. Kagame, qui prétendait les représenter tous, de balayer un peu devant leur porte, parce que qu'ont fait les Africains de tous ces fonds qu'a envoyé l'Union européenne depuis 50 ans en Afrique? Ont-ils tous été bien utilisés? Je suis pas sûr. Et donc, c'est assez facile, effectivement, d'attaquer l'Union européenne ou d'attaquer l'ancien colonisateur. Encore faut-il savoir balayer devant sa porte. Les États africains sont indépendants depuis 60 ans. Ont-ils fait les efforts suffisants pour mettre en place chez eux des systèmes de santé efficaces? C'est une question qui se pose et on aurait aimé entendre M. Kagame en tant qu'ancien président de l'Union africaine poser cette question. Malheureusement, il ne l'a pas fait.
Oui, mais alors j'aurais quand même ajouté un mot, c'est que le président Kagame, il a transformé son pays en un pays qui est, on l'aime ou pas, etc., mais qui est un pays qui est assez prospère et assez exemplaire. C'était pas le propos hier, mais enfin, il est le premier à reconnaître toutes les déficiences dont Renaud vient de parler par ailleurs. Maintenant, on peut pas l'empêcher non plus de faire de la politique, mon cher Renaud.
Tout à fait. Il veut se présenter comme le grand chef de toute la région des Grands Lacs et même peut-être au-delà. C'est un homme qui a beaucoup de qualités, qui est un très grand manager. Ce n'est pas un grand démocrate. Il est au pouvoir depuis 27 ans. Il n'a pas l'air de vouloir quitter le pouvoir. Il a d'ailleurs critiqué la conception européenne de la démocratie. Il peut le faire, pourquoi pas. Tout doit être entendu dans une conférence comme la World Policy Conference. La question qui se pose sur le Rwanda, est-ce que les Hutus sont suffisamment associés au pouvoir? Ils sont sûrement associés à la richesse, ils bénéficient sûrement de la richesse, mais vous savez, l'économie, c'est pas toute la nature humaine. Il y a aussi la dignité, la culture. Et est-ce que les Hutus, comme ça, même la majorité de la population au Rwanda, sont vraiment associés aux postes de décision? Y a-t-il des ministres importants qui sont Hutus? Je ne le pense pas. Et donc, toute la question qui se pose est de savoir si après, quand il partira du pouvoir, M. Kagame laissera un pays certainement prospère et bien géré, comme l'a dit Thierry, mais un pays avec un équilibre politique, avec une société politique équilibrée qui fonctionne, avec des Hutus qui n'auraient pas envie de prendre leur revanche politique. C'est toute la question. J'aurais aimé que Paul Kagame évoque ce sujet, mais c'est un sujet qu'il n'aime pas trop évoquer. C'est d'ailleurs un homme qui n'aime pas beaucoup la critique quand vous allez à Kigali, et même dans les enceintes internationales. Mais ça reste un remarquable manager de son pays, à la politique près. Et la politique, c'est important. La stabilité, l'harmonie entre les ethnies en Afrique, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'elle soit parfaitement réussie au Rwanda. J'aimerais qu'elle le soit, je ne suis pas tout à fait sûr.
On va avancer dans le débat. Je voudrais qu'on parle de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. A été évoqué pendant cette World Policy Conference le risque, Thierry de Montbrial, d'une grande confrontation. Est-ce qu'on va là vers le piège de Thucydide qui veut que la puissance montante croise la puissance qu'elle prétend concurrencer au risque de confrontation? Et ceci avant que les choses ne s'améliorent. Est-ce que d'après vous, il y a un moyen d'éviter la rivalité entre la Chine et les États-Unis?
Non, éviter la rivalité, sûrement pas. La rivalité elle-même, elle est absolument inévitable, et que les Chinois aspirent à la primauté, la première puissance du monde dans le courant de ce siècle, et tout le monde est d'accord pour parler de 2049, qui sera le centenaire de la prise de pouvoir par Mao Tse-Tung, tout cela est inscrit dans les faits. Alors maintenant, les Chinois ne veulent certainement pas la guerre et veulent à la chinoise, c'est-à-dire gagner sans combattre, cela est incontestable. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un gros accident sur la route. Moi, je suis de ceux qui pensent que le risque, c'est plus un risque de dérapage. Alors, il y a une inconnue, il y a une sorte de mystère, une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. C'est pourquoi Xi Jinping a pris le risque de durcir son propos au point d'être trop précis, c'est-à-dire de dire que la question de Taïwan doit être réglée du temps de son mandat. Alors, nous savons bien qu'il a pris des dispositions pour que son mandat puisse être renouvelé au moins encore une fois, mais c'est quand même un laps de temps qui est très court. Donc, c'est quelque chose de très provocant. Et on peut assez facilement imaginer des scénarios qui conduiraient à ce que j'appellerais l'équivalent de la crise des missiles de Cuba, si vous voulez. C'est-à-dire que ou bien à ce moment-là, on tombe du bon côté, c'est-à-dire qu'on se met à mettre en place des mécanismes comme on l'a fait après la crise des missiles de Cuba réelle, qui a bougé sur l'arms control, les mesures de confiance, etc., etc. Bon, ou alors ça dérape effectivement. Et là, on se trouverait dans des situations où les États-Unis ou bien capituleraient, serait Munich, un peu si vous voulez, ce serait un vrai Munich et non pas le Munich dont on a beaucoup abusé. Ou alors il y aurait un dérapage incontrôlé. Je crois que c'est une question qu'on peut poser, mais il est impossible à l'heure actuelle, à mon avis, de jouer sur les probabilités.
Alors, chacun des deux camps, Renaud Girard, je me tourne vers vous, finalement, précise un petit peu son mode d'action, Taïwan pour la Chine, et puis tout récemment, le fameux accord AUKUS entre Canadiens, Américains et Australiens, avec nucléarisation des sous-marins.
Australiens, tout à fait. Je crois qu'on peut parler du début assez clair de la deuxième guerre du Pacifique. C'est une guerre qui va peut-être durer 40 ans. C'est une guerre qui ne se fera pas à coups de torpilles comme la bataille de la mer de Corail ou la bataille de Midway, mais c'est à coups de rapports de force, de cyberguerre, d'intimidation. Je pense que les Chinois ont perdu le premier set de ce grand match qui se jouera au moins en 5-7, puisque il y a encore 3-4 ans, l'Australie était un pays qui était assez bienveillant à l'égard de la Chine, qui avait la plus grande partie de son commerce à l'égard avec la Chine. Aujourd'hui, c'est très clair, les Australiens ont peur de la Chine, parce qu'ils ont été très apeurés par la réaction très brutale de la Chine, alors que eux avaient demandé quelque chose d'assez innocent, qui était une enquête internationale sur l'origine du Covid. Et c'est un peu normal que lorsque vous avez une épidémie mondiale, bien qu'on fasse une enquête internationale. Et les Chinois ont réagi extrêmement brutalement, ont commencé d'ailleurs des cyberactions quotidiennes contre l'Australie. Et donc là, il y a vraiment un accord très clairement tourné contre la Chine. Vous avez aussi l'existence du Quad, n'est-ce pas, avec
l'Inde, le Japon,
l'Australie et l'Amérique. Mais les Chinois n'ont pas encore perdu le match, parce que ils vont faire preuve de patience stratégique. Ils vont attendre, en fait, ils regardent l'histoire, ils vont attendre que les Américains se lassent. Ils ont vu les Américains venir nous remplacer en Indochine en 55 et abandonner, alors qu'ils n'étaient pas, qu'ils avaient tous les moyens militaires en fait de rester s'ils avaient voulu, abandonner Saïgon en 1975, le Vietnam. Ils ont vu les Américains intervenir en Mésopotamie en 2003 et ensuite l'abandonner en 2011, ils ont vu les Américains intervenir massivement en Afghanistan et l'abandonner en 2020. Et donc, c'est un peu le jeu qu'ils veulent jouer. Dans cette guerre du Pacifique, les Chinois ont pris déjà des positions, des avantages. Ils ont conquis, en fait, ils sont installés sur tous les récifs qui étaient autrefois des terra inulius, comme on dit en droit international, des terres qui n'appartenaient à personne à l'intérieur de la mer de Chine méridionale, c'est-à-dire qu'ils ont accaparé une zone économique exclusive plus grande que la Méditerranée. Ils développent considérablement leur marine de guerre. Et tout ça pour obtenir, effectivement, ce qui fait, on peut le dire, l'obsession de Xi Jinping. Xi Jinping a envie de quitter le pouvoir après avoir rendu Taïwan, l'île de Formose, à la mère patrie. Mais effectivement, comme le disait très bien Thierry, ça peut dégénérer. D'abord, je pense que les Taïwanais ont vu l'exemple de Hong Kong. Ils tiennent à leur démocratie, ils tiennent à leur liberté. Et donc, c'est effectivement un jeu dangereux, où d'ailleurs les Russes, dont on parlait tout à l'heure, je pense, où les Russes vont garder leur neutralité, comme ils avaient d'ailleurs gardé leur neutralité pendant la première guerre du Pacifique.
Alors, je sais que Thierry de Montbrial, vous souhaitez rajouter quelque chose. J'aurais une dernière question sur la relation franco-américaine.
Oui. Alors, très brièvement, sur ce que Renaud appelle la première manche, je crois que on peut dire qu'ils l'ont perdu, c'est une question d'interprétation, mais surtout, ils ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait très vite, au fond, finalement, une réaction, y compris en Europe, parce que le fait que ce format 16+1, les Chinois avaient commencé par débaucher, si j'ose dire, un certain nombre de pays européens, bon, ils ont été surpris,
et
ils ont été surpris aussi par la réaction américaine. Et sur la seconde remarque, c'est que le comportement de Xi Jinping est curieux, puisqu'il est incompatible avec la notion de patience stratégique. C'est là qu'il y a quelque chose d'étonnant. Alors, sur la relation franco-américaine.
Anthony Blinken est à Paris cette semaine.
Oui. Bon, mais Anthony Blinken, malgré, nous le connaissons tous, il est le secrétaire d'État américain. Bon. Et je pense que cet incident est salutaire. Je crois que cet incident est salutaire parce qu'il nous ramène à la prise de conscience de nos illusions. Toute une partie des élites françaises, j'emploie exprès le mot élite française, qui croyaient qu'avec Biden, c'était le retour au bon vieux temps, aux bonnes manières, au temps pré-Obama, etc., en sont pour leur compte. Je crois que nous devons, je dirais en un mot, redécouvrir aussi les vertus d'une certaine forme de gaullisme, c'est-à-dire, oui, nous resterons de bons alliés de l'Alliance Atlantique, mais nous devons redécouvrir que face aux grandes menaces, les États sont seuls.
Et nécessité pour cela aussi que l'Union européenne suive la France, Renaud Girard.
Oui, mais ne pas se faire d'illusions non plus, si vous voulez. La défense européenne, c'est un vœu eschatologique, on l'aura peut-être dans 2 siècles. Mais aujourd'hui, une défense est faite par une armée. Qu'est-ce que c'est qu'une armée ? Une armée, c'est composé de soldats. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat ? Un soldat, c'est un homme qui est prêt à tuer, à se faire tuer pour une cause. Aujourd'hui, vous avez des soldats au Royaume-Uni et des soldats en France. Si vous connaissez un autre pays d'Europe où il y a des soldats, vous me le dites, Marie-France Chantal, parce que moi, j'en connais pas. J'ai vu les Allemands à l'œuvre au Kosovo ou en Afghanistan. Ce ne sont pas des soldats. Et j'ai vu les Hollandais aussi à l'œuvre en Bosnie. Ce ne sont pas des soldats, ça c'est sûr. Et puis, vous avez d'autres pays qui, de toute façon, comme ça a été souligné déjà, comme la Pologne, qui dit, mais attendez, nous, moi, je suis l'esclave des Américains, mais je me sens très, très bien comme esclave des Américains. Je me porte parfaitement. Je veux pas d'autre statut. Ça me va parfaitement. Donc, il faut pas se faire d'illusions. Je crois qu'il faut faire des alliances ad hoc. Il faut maintenir, malgré le petit coup dans le dos qu'ils nous ont fait sur ces sous-marins, mais qui stratégiquement est pas très important, et puis de toute façon Naval Group, et industriellement non plus, Naval Group a un carnet de commandes plein, mais je pense qu'il faut quand même garder notre alliance de Lancaster House avec les Britanniques, parce que les Britanniques sont proches de nous et que nous pouvons faire des actions en commun. Et puis par ailleurs, il faut faire des alliances ad hoc. Je pense que il était illusoire de croire que c'était la France qui allait protéger l'Australie contre la Chine. C'est évidemment, l'Australie est revenue vers son parrain traditionnel qu'est l'Amérique, c'était tout à fait normal, nous n'avons pas vu venir le coup, nous avons eu tort, nous n'avons pas été bons là-dessus, mais en revanche, nous avons une urgence, nous Français, c'est la Méditerranée. Et les Français ont été, alors pas de défense européenne, vous avez vu que lorsque nous sommes opposés à l'expansionnisme turc, qui est très préoccupant, notamment en Libye, toute l'Union européenne, pratiquement, nous a lâchés. Alors, il faut faire des alliances ad hoc. Par exemple, nous renforçons les capacités de la Grèce. Eh bien, il faut essayer, progressivement, de trouver une alliance ad hoc pour, effectivement, renforcer la Grèce face à l'expansionnisme néo-ottoman mis en place par M. Erdogan, Peut-être que le pouvoir, un jour, va changer à Ankara, et donc là, on verra quelle est la situation. Mais aujourd'hui, c'est un expansionnisme en Méditerranée qui est évidemment dangereux, et on peut regretter que la France soit un peu seule dans cette affaire.
C'est la fin de cette édition de Géopolitique depuis Abu Dhabi, où se tenait ce week-end la 14e édition de la World Policy Conference, une rencontre fondée et présidée par vous, Thierry de Montbrial, qui est également président et fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et merci à Renaud Gérard, grand reporter et éditorialiste de politique étrangère au Figaro, dont les chroniques sont à lire tous les mardis dans le quotidien français. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à Abu Dhabi. Nathalie Laporte à Paris, à samedi prochain.